Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a tellement de choses à discuter, vous et moi, ce matin. Il y a plein de choses qui se passent chez nous et j'en reviens pas encore de cette opération fabuleuse. Vous avez peut-être vu ça hier au Téléjournal de Radio-Canada ou encore vous avez attrapé une partie de l'entrevue de mon collègue Paul Arcand ce matin avec ce chirurgien et son équipe extraordinaire, le docteur Daniel Borsuk, qui a réalisé la première greffe de visage ici chez nous sur Maurice Desjardins. 12 heures pour prélever le visage d'un donneur, 18 heures pour le greffer sur cet homme qui avait eu un accident de chasse, 9 chirurgiens, des anesthésistes, des infirmières. Tu sais, on se disait avec l'équipe, on chiale beaucoup sur notre système de santé, puis je pourrais vous parler d'une anecdote hier encore où je suis allée à un rendez-vous à l'hôpital qui était planifié depuis des mois, où finalement t'arrives sur place puis on te dit « le médecin sera pas là ». Ah, on vous a pas appelé. Ah, finalement, ils disent que tu passes pas dans la journée, là. Mais en même temps, alors on pourrait, tu sais, il y a des raisons. On a tous une histoire régulièrement avec les failles de notre système de santé. Sauf que parfois, il arrive ce genre de petite bulle d'espoir où on se dit, c'est vrai qu'on se plaint, mais en même temps, ce genre de miracle, ça nous donne des ailes, ça nous fait croire que finalement on vit dans une société humaniste et avec des médecins qui ont à cœur la santé, la vie de leurs patients. Moi, je félicite vraiment, et je pense que vous êtes d'accord, hein, ceux qui ont vu le reportage, je pense qu'on va beaucoup en parler au cours des prochains jours. C'est sûr qu'on recevra, nous aussi, à l'émission, le docteur Daniel Borsuk. Ils sont très occupés aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il y a une conférence de presse en ce moment même. D'ailleurs, on a un extrait, il y a quelques minutes, de Radio-Canada, où ce chirurgien, le docteur Borsuk, explique un peu la genèse de ce qui s'est passé.
En 2011, il a subi une blessure par balle, où il a perdu son mâchoire supérieure. Il a perdu son mâchoire inférieure, il a perdu les rebords en dessous des yeux, les dents, la capacité de respirer normalement, la capacité de parler normalement, et en fait, il a eu misère à promener dehors sans le regard des autres. C'est en 2015, je l'avais rencontré pour la première fois, après 5 reconstructions, il y a eu plusieurs chirurgies et tentatives avec notre équipe déjà ici pour essayer de refaire son visage.
Incroyable. Et ça a réussi. Hier, justement, le docteur disait, il n'y avait pas de plan B, là. Il fallait que ça marche. Alors, sincèrement, c'est fascinant. Je pense que oui, effectivement, on est tous impressionnés par cette première transplantation faciale au Canada. C'est vraiment un exploit scientifique. Et sincèrement, ça donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui attendent une greffe. Vous savez, je vous l'ai raconté souvent, mon conjoint a été sauvé de la mort par une greffe du foie. Puis c'est sûr que je ne manque aucune occasion pour vous rappeler à quel point c'est important de signer votre carte de don. C'est très peu de gens qui peuvent être éventuellement donneurs. Personne ne se le souhaite, c'est sûr. Mais une fois qu'on est mort, c'est... Hein, c'est la meilleure façon de rendre à son prochain. Alors voilà, je voulais insister là-dessus et féliciter j'en perds mes mots, cette équipe. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'entrevue de Paul Arcand ce matin. On va parler avec mes invités que je vous présente tout de suite, Benoît Charrette, Antoine Joubert. Merci messieurs.
Bonjour.
Mes spécialistes de voitures, parce qu'on voulait revenir sur toute la question des voitures électriques en cette campagne électorale. Il s'est dit beaucoup de choses sur les voitures électriques. Il s'est pas dit beaucoup de choses sur l'environnement, si on est tous d'accord.
Ouais.
Ce que je voulais
dire. Malheureusement.
Oui, effectivement, Benoît, tu le dis bien. Mais ce qui nous a fait vouloir en discuter avec vous deux ce matin, c'est que dernièrement, on regardait ça, puis les ventes de voitures électriques, apparemment, c'est incroyable, ça explose.
Ben, c'est parce que là, on arrive en ce moment dans une période où il va y avoir beaucoup plus de disponibilité. Là. Mercedes a été le premier à révéler sa campagne dans les 4 prochaines années, jusqu'en 2022, où on va présenter une dizaine de modèles. Audi, BMW vont faire la même chose. Volkswagen a annoncé, puis j'étais au lancement de modèle Cadillac hier, le nouveau XT4. Puis Cadillac a annoncé via différentes filiales chez GM avec Buick et Chevrolet, entre autres, qu'on va avoir des utilitaires électriques aussitôt que 2020, puis ça va continuer à avancer. Fait que là, on est dans une période où l'offre va se multiplier dans différentes catégories parce qu'il y a peu d'utilitaire à date. Donc, on va arriver dans des véhicules que les familles vont pouvoir considérer aussi. Puis là, ça risque d'intéresser pas mal plus de monde.
Il ne faut pas oublier non plus Antoine? Que le marché automobile canadien réagit au fait que l'Ontario n'a plus de rabais gouvernemental sur les voitures électriques. Alors moi, je me dis, en tant que constructeur...
Depuis cet été, là, ça.
Depuis quelques jours.
Avant hier.
Depuis quelques
jours.
C'est ça, il avait annoncé cet été, puis là, c'est en vigueur depuis cette semaine, c'est
exact.
Ça?
Alors c'est Rob Ford qui a dit à Ford... On ne vous donne plus de rabais. On peut dire ça comme ça.
En fait, c'est Doug Ford.
Merci Benoît de me reprendre.
C'est pas grave.
Mais c'est drôle parce que Toyota, Honda, Chrysler, GM, Ford ont des usines en Ontario. Ces cinq constructeurs-là fabriquent des voitures électriques et on leur a coupé les vivres sans avertissement en Ontario. Alors, eux, il faut qu'ils réagissent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un inventaire de véhicules électriques à l'échelle canadienne. Ils savent qu'en Ontario, ils n'en vendront plus.
Donc, ils nous l'envoient,
ils envoient l'inventaire ici.
Et
c'est
pour ça que l'offre
est plus grande.
L'offre est plus grande et ça va probablement diminuer les listes d'attente parce qu'il y a encore beaucoup de modèles qu'on doit attendre quelques mois. Et en amenant ces véhicules-là qui étaient prévus pour l'Ontario au départ, ça va faire une offre plus grande. Donc, les gens qui pestaient un peu parce qu'ils attendaient 4, 5, des fois 6 mois avant d'avoir un modèle électrique, ben probablement que là, dans les semaines qui vont suivre, ils vont être capables d'en avoir.
Il va y avoir des véhicules disponibles. Est-ce qu'on sait combien ça représente de véhicules, ce volte-face ontarien?
Ça, c'est difficile à dire parce que Ford est enfin... Ford a une Focus qu'on abandonne actuellement pour éventuellement ramener d'autres choses. À quel point les concessionnaires qui ont des inventaires vont les laisser aller, c'est difficile de savoir à quel point la clientèle va se défaire de l'idée d'une voiture électrique.
Moi, je pense qu'on va probablement essayer de liquider ce qui reste, mais les commandes pour les années à venir.
Ouais,
par exemple, les 2019, les concessionnaires ontariens doivent se dire, OK, moi, au lieu d'en prendre 30...
Ils n'en prennent plus, ou à peu près 5.
Alors, la disponibilité des modèles pour le concessionnaire québécois qui va appeler, parce que les quotas sont par pays. Tu sais, au Canada, on va envoyer tant de modèles. Bon, ben lui, au lieu de pouvoir en prendre 12, il va peut-être pouvoir en prendre 42.
Mais ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que finalement, s'il n'y avait pas ces incitatifs, comme on a nous au Québec, là, même s'ils ont...
pas de voiture électrique.
Les gens ne seraient pas attirés par les véhicules électriques. C'est ce que vous dites, là, parce qu'ils ont changé d'idée en Ontario, là, ça veut dire qu'ils vont re-shipper leur voiture chez nous parce qu'ils en vendront quasiment plus chez nous.
Parce qu'actuellement, quand tu achètes une voiture électrique, puis évidemment, là, que j'exclus les voitures électriques à 100 000 $
Oui, on parle pas de ceux qui s'achètent des Tesla.
Bon,
c'est ça que
une voiture électrique de 45 000 $ et moins, disons, là, ça prend à peu près 3 ans pour quelqu'un qui fait 25 000 km par année pour rentabiliser la surprime d'une voiture électrique par rapport à un véhicule équivalent à
4-5 ans, tu dis?
À peu près 3 ans.
75-80
000 km, là, c'est pas mal ce que ça coûte pour absorber la somme. Puis après ça, c'est de l'argent directement dans vos poches. Ça, il y a des études qui ont été démontrées là-dessus. Puis évidemment, c'est pour...
Mais 3 ans, c'est pas si pire.
3 ans, c'est pas si pire. Mais je veux dire, si en plus, tu retires tous les rabais, ben là, ça s'est augmenté. Puis là, Benoît faisait mention tantôt de Mercedes, d'Audi, de BMW, de Cadillac qui s'en vient avec des électriques. Moi, j'étais au lancement Mercedes EQC en Stockholm il y a quelques semaines. C'est bien beau, là, mais on parle uniquement de véhicules qui vont coûter 80 000 $ et plus.
Oui, c'est ça. Là.
Fait que
c'est,
tout le monde arrive avec des électriques, mais des électriques pour Monsieur Tout-le-Monde, comme la Nissan Leaf que je conduis cette semaine, ça, il n'y en a pas des masses. Et c'est ça que ça prend. Là.
Comment tu l'aimes, ta Leaf, là, parle-nous-en donc?
Je suis particulièrement impressionné.
Oui?
Honnêtement, outre le fait qu'on a oublié de mettre un volant télescopique, là, je ne sais pas si on a oublié.
C'est une position de conduite,
j'ai trouvé ça bizarre. Mais outre ce petit détail-là...
Où tu n'as pas trouvé le piton, je sais pas.
Un détail...
Il n'y en a pas. Fait que le volant, il est comment? Il est trop bas?
Il est trop loin. C'est une adaptation. Là. Mais c'est un détail, c'est sûr. Sauf que le rendement de cette voiture-là, ils ont un système qui appelle e-pedal. J'aime mieux le dire en anglais qu'en français, parce que je trouve que ça sonne weird en français. Mais ce système-là permet de régénérer de l'énergie plus facilement et la voiture s'immobilise d'elle-même dans le trafic sans que tu aies utilisé les freins. Alors, pour te donner un exemple, je suis parti. On annonce en passant 241 km d'autonomie avec cette voiture-là, qui a une batterie de 40 kWh. En 2019, on va augmenter la puissance à 60 kWh pour une autonomie de 320 km. Ça commence à être sérieux.
Oui.
Mais moi, je suis parti de chez moi. J'ai une borne de recharge dans le garage, chez moi. Alors, je suis parti à 255 km d'autonomie affichée. Et j'ai fait 32 km pour m'en venir ici. Et j'étais à 241 km d'affiché.
Ah!
Donc, ça te donne une
idée. Elle s'est régénérée un peu.
Elle se régénérait un peu parce que j'étais au dans freinage, le trafic tout le long. Ouais. D'ailleurs, pour faire 32 km, ça m'a pris 1 heure et demie. Mais ça...
hein? Je te remercie de m'aimer comme ça.
Oui, c'est ça, exactement.
De faire ces efforts pour venir parler à notre exactement. Auditoire.
Ouais. Mais tout ça pour dire que le comportement de l'auto... la stabilité, l'insonorisation, on a bien travaillé avec la Leaf, le prix est correct.
Ouais. Mais c'est combien? C'est combien d'ailleurs?
36 000.
36 000.
Ah bon, celle que j'ai là coûte un peu plus cher. On est à 40 000 parce qu'il y a des gadgets dedans. Là.
Ouais.
Moins le 8 000 du gouvernement, bien sûr. Mais c'est.
Sauf que c'est une voiture.
Oui, c'est une voiture. Ah, c'est pas un tank comme tu conduis, c'est sûr.
Non, mais moi, j'aime ça. Je pense que les filles qui m'écoutent vont comprendre ce que je veux dire.
Ben,
on aime ça,
être tantôt.
Un peu plus haut sur le...
Il y a encore un manque d'offres au niveau des multisegments, des utilitaires.
Clairement. J'ai l'impression que quand ils vont venir avec un peu plus d'offres de ce genre, il va y avoir encore plus de gens...
Parce qu'on va aller chercher une nouvelle clientèle.
Vous n'avez pas idée à quel point on reçoit, Benoît et moi, chaque semaine, des courriels sur le... Kona électrique de Hyundai qui va arriver en novembre.
Le Kona, oui.
Puis je veux dire, le Kia Niro puis le Kona, là, soyez pas dupes, là, gens du public, je vous le dis, là, c'est une voiture.
Oui. Ouais.
C'est une voiture
ça
sous-compacte.
A l'air d'un utilitaire,
qui a 2 pouces de plus en hauteur qu'une voiture ordinaire.
OK, mais fais la Leaf 2 pouces de plus.
Oui, mais pourquoi?
Ça va avoir l'air fou.
Ben, c'est pas, là, mais tu sais...
En quelque
ben,
part...
Ben, tu sais, on peut pas dire que c'est des modèles de beauté, ces voitures électriques.
Non, c'est pas un modèle de beauté, mais je veux dire, moi qui aimais particulièrement la Volkswagen Golf comme voiture qui avait un comportement intéressant, une voiture qui était dynamique à conduire, même si c'était une électrique, on avait réussi à faire quelque chose de bien par rapport à d'autres modèles sur le marché, mais là, Nissan a quelque chose de pas mal plus sérieux que l'ancien modèle. Puis l'autonomie est intéressante. Parce que là, je me dis, si je suis capable de faire 32 km aller, 32 km retour, je reviens chez nous, puis je n'ai pas encore vidé 35% de la charge de la batterie.
Non, c'est vraiment
pour
intéressant.
Pour 80-90% des gens, c'est suffisant.
Ouais.
Puis c'est agréable à conduire.
Ouais.
C'est bien plus le fun à conduire ça qu'une hybride ordinaire avec une CVT. Là.
Oh non, tout à fait, c'est sûr. Les fausses hybrides, là.
Ouais.
Ce que moi, j'appelle les fausses hybrides. Évidemment, on va s'arrêter ici. Notre question, vous avez remarqué qu'on parle de voitures électriques, évidemment, mais la question plus spécifique que je voulais vous poser, parce qu'il y a eu quand même des propositions de la part de certains politiciens, entre autres Québec solidaire, qui a fait sourire beaucoup de gens, pas dire rire carrément certains, même si leur idée n'est pas si farfelue. On a dit c'est une idée farfelue d'interdire les véhicules à essence dès 2030. Puis quand tu repenses, tu dis, attends, il y en a ailleurs, dans d'autres pays, qui ont décidé de le faire. Puis pourquoi c'est farfelu? Tu sais, à un moment donné, on est toujours là à parler de voitures électriques, mais on veut jamais faire le geste d'en acheter une puis dire, OK, je tourne véritablement aujourd'hui le dos à l'essence.
Ben oui, mais on n'est pas en Finlande, là.
Non, je sais. Puis moi, écoute, je le vis. Je suis dans un processus de changement de magasinage de voitures. Puis on est tenté par l'essence parce que les prix, on vient d'en parler, nous incitent encore à dire, bon, puis l'autonomie, tu dis, ben, je vais attendre un petit peu plus longtemps, puis le peu d'offres des modèles, il y a plein de facteurs qui fait que les gens qui nous écoutent en ce moment, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste de dire dans 15 ans au Québec, on roule tous en électrique ou alors c'est comme pelleter des nuages puis pas être les deux pieds sur terre? On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite avec vos commentaires et bien sûr nos invités. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Tous les Québécois en voiture électrique d'ici 15 ans, est-ce que ça vous paraît réaliste, Daniel? Bonjour.
Bonjour à tous.
On vous écoute, Daniel.
J'espère. Je sais pas si c'est réaliste, mais j'espère beaucoup, parce que moi, j'ai même une Volt 2017, puis j'adore le véhicule. Je peux dire que j'économise de l'argent depuis que j'ai changé mon véhicule. Je sauve de l'argent par année.
Ouais.
Et puis, c'est très... Ben, j'espère.
Est-ce que vous faites le calcul quand même d'immobilisation du coût du véhicule? Parce que, comme le disait tout à l'heure mon invité Antoine Joubert, ça prend à peu près, tu disais, 3 ans, c'est ça,
ouais,
Antoine, pour rentabiliser le coût supérieur d'achat du véhicule.
Et si tu prends une Golf électrique versus une Golf à essence à équipement égal, tu vas avoir à peu près 3 ans de prime avant d'absorber le montant que tu as déboursé.
Parce que là, Daniel, il dit, ça fait un an et quelques que vous avez acheté une Volt, c'est ça?
Je l'ai acheté en 2016, mais c'était une de
2017, vous avez... Oui, 2 ans. Donc, en théorie, vous ne l'avez pas encore tout à fait rentabilisé, le coût, le surcoût par rapport à l'électrique.
Ben moi, je te dirais, vu que je suis courtier immobilier, à 50 000 km par année, à peu près...
Elle est payée.
Elle est payée, bon. C'est ça.
Elle est payée, c'est sûr.
Il y avait un terrain 2012 avant, un camion Chevrolet, 4 cylindres,
on n'est pas en même place.
Ah non, pas en tout, mais non. Je sauve de l'argent, c'est ça. Ça me sauve à peu près 6 000 $ par année.
Ah ouais. Ouais.
Puis surtout que le vol vous a probablement coûté pas beaucoup plus cher que le terrain, là.
Ah non, non, c'est ça. Pratiquement, même j'ai sauvé, je pense, 6 000 $
Ouais. OK. Okay, non, 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 ouais. C'est ça. Mais là, c'est sûr qu'on ne compare pas deux véhicules équivalents.
Non.
Mais c'est sûr que c'est une formule intéressante. La Volt, c'est une voiture super intéressante. Là.
Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Serge, bonjour. Est-ce que ça vous a paru réaliste quand Québec solidaire a dit on veut interdire les véhicules à essence dès 2030? 2030, je vous le rappelle, c'est dans à peine 12 ans. Donc, c'est bientôt, c'est demain. Là.
J'espère que les constructeurs automobiles vont s'attirer à la tâche.
Exact.
Ça ne peut pas être réaliste, là. Moi, je serais bien ouvert à avoir un véhicule électrique, sauf que j'espère qu'ils vont faire l'équivalent d'un plein d'essence de l'entour de 600 km par recharge pour que ce soit efficace. Ben moi, je fais 35 000 kilos par année.
Ouais.
Puis, je fais autant d'autoroutes que de villes. Fait que je sais que l'électrique sur l'autoroute, ça gaspille beaucoup. Fait que
ouais.
Je pense que
ouais, c'est sûr.
Là, je me cherche un nouveau véhicule qui ne sera pas électrique. Je cherche une chose d'un 7 passagers, de la grosseur d'un Rondeau ou d'une Mazda 5. Mais je trouve rien pour le moment. Je ne sais pas si j'avais des idées.
Vous avez vraiment besoin d'un 7 passagers?
Oui.
Okay.
Ben, le seul 7 passagers hybride en ce moment, c'est le Pacifica. Il n'y a pas de 7 passagers électrique. Pour le moment, sur le marché, ça va venir éventuellement. J'ai même eu des gens qui m'ont écrit des camions électriques, genre des F-150 et compagnie. Ouais. Je n'ai essayé un à Moving On, l'événement qu'il y a eu cet été à Montréal. C'est une compagnie de Montréal qui transforme des F-150. Ça vient pas de chez Ford, mais ça va très bien. Mais on n'a pas encore, eux, là, le transforme. Je ne rappelle plus du montant. On peut aller les voir et transformer son F-150 en modèle électrique. Je ne me rappelle plus de la compagnie. Mais c'est une compagnie qui fonce en Montréal. Oui.
Mais,
Antoine?
Je veux dire, c'est parce que l'électrique, pour l'instant, c'est, puis je veux dire, moi, je n'ai pas de crainte. Là. Dans 2, 3, 4 ans, on va les avoir, les autonomies. Là. Les gens, c'est la grosse crainte de l'autonomie. Même si les gens ne réalisent pas qu'ils n'en ont pas besoin, tout le monde veut en avoir.
Comme des gens qui ont des véhicules en route qui vont jamais en route.
Mais
s'ils veulent y aller, ils peuvent y aller.
Ben, c'est pour ça que je dis comme les seuls passagers.
Il y a des animatrices de radio qui veulent avoir des gros camions sécuritaires. Ils en ont-tu vraiment besoin?
On en connaît. Ben, oui, elle en a vraiment besoin.
Oui, c'est ça.
Elle en a vraiment besoin, j'en connais. Puis
Pourquoi tu penses que je pense à toi?
C'est pour ça que je posais la question à Serge quand il dit j'ai besoin d'un 7 passagers.
Non, là où j'ai un problème.
Moi, j'en ai un, puis je me rends compte que finalement, c'est peut-être 3-4 fois par année qu'on est 8 dans l'auto. C'est ça qu'il faut réfléchir. Puis là, c'est sûr qu'il faut se poser cette fameuse question. Est-ce que j'ai besoin de ça tant que ça? Ou est-ce que je suis prêt à aller pour plus petit, plus raisonnable?
D'où l'importance d'évaluer ses besoins.
Voilà, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois.
Mais une voiture électrique, je suis désolé, même dans 25 ans, ça ne sera pas pour tout le monde. Comment tu vas remorquer, toi, une roulotte ou une embarcation avec un véhicule électrique sur 300 km, il va se vider dans le temps de le dire.
Ouais.
Il y a des gens qui ont des besoins spécifiques. C'est pas vrai que l'électrique est faite pour tout le monde.
Tu vas manger beaucoup de poulet.
Et je veux dire, il faut vraiment pelleter des nuages. Il faut vraiment pas sortir du plateau Mont-Royal pour penser que tous les Québécois peuvent rouler électrique. Mm. Moi, je suis en faveur de la voiture électrique, bien comme il faut. Et je trouve que ces voitures-là sont intéressantes à conduire. Bien sûr qu'elles sont bonnes pour l'environnement, elles sont bonnes pour le portefeuille. Ça convient à beaucoup de gens. Je pense que 75 % des gens peuvent composer une auto électrique au quotidien sans problème. Mais il y a une partie des automobilistes qui ne pourront pas se satisfaire.
Donc, toi, tu dis, il y aura toujours des véhicules à essence?
Ben, oui, absolument.
Au moins hybride.
Oui, c'est ça.
Puis ce que Québec solidaire annonce, ça se fait ailleurs dans le monde. Là.
Ça se fait où?
Manon Massé n'a pas inventé cette idée-là.
On parle de la Norvège,
La Norvège, c'est ceux qui l'annoncent le plus tôt.
C'est
2025 en Norvège qu'on veut arriver à avoir un parc automobile électrique. Évidemment, on ne veut plus vendre de véhicules autres qu'électriques à partir de 2025. Qui aura un moteur à combustion interne, pour le préciser. Donc, ça veut dire qu'il va encore en avoir sur la route,
mais
qu'il n'y en aura plus en vente nécessairement en concession. Il y a l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Chine qui est en 2030 aussi, l'Inde qui est en 2040. Donc, on a un paquet.
Moi, quand je vois la Chine, excuse-moi, mais j'ai comme un petit doute. Là.
Quand tu as respiré une fois l'air de la Chine, tu comprends pourquoi ils veulent plus vert.
Non, c'est sûr. Mais je veux dire, entre ton vœu pieux de dire ça se peut plus, on n'est plus capable de respirer chez nous, puis de dire on vendra plus de véhicules à essence, puis on va aller en tout électrique.
La Chine est en avance. Hein, sur les 748 000 véhicules électriques qui s'est vendus sur la planète l'an passé, 336 000 ont été
près de la moitié?
En Chine.
Ah, mais écoute, il est temps qu'il faut qu'ils se réveillent. Ils vont mourir
étouffés. Et la Chine a beaucoup, beaucoup de sous. En fait, la Chine n'étant pas un pays démocratique, quand le gouvernement central dit on va investir, pas besoin d'un référendum de l'opinion de Pierre Jean-Jacques, ils l'investissent, puis go.
Ouais. Ils ont des projets verts assez...
Il y a des Pierre Jean-Jacques en Chine.
Oui. L'équivalent chinois de Pierre Jean-Jacques.
Tu me les nommes, Benoît, s'il te plaît.
Ils ont vraiment des projets environnementaux fascinants, là, des murs verts, des toits agricoles. C'est... Parce que tu sais, les gens qui vont travailler en Chine aujourd'hui se font payer une prime pollution. Là.
Oui. C'est intéressant ce que tu dis, Isabelle, parce que tu me parles d'environnement.
Oui. Et on va en parler d'ailleurs en deuxième heure d'émission.
C'est parce que les gens à qui on a parlé au téléphone, ils ont téléphoné en disant « j'ai économisé 6 000 $
Dans de l'argent, eux.
C'est de l'argent. Il n'y a personne qui achète une voiture électrique.
Pour l'environnement?
Oui, il y en a. Mais la plupart des gens pensent portefeuille.
C'est cette mentalité-là
qu'il faut changer aussi.
Tout à fait. Jean, bonjour. Avez-vous un véhicule électrique entre les mains ou vous magasinez
non.
un? Ou...
Non, moi je me promène pendant 6 mois par année en scooter au gaz. Là.
OK.
Mais je pense que tantôt, quand vous disiez, Mme Maréchal, est-ce que j'ai besoin de ça? Non.
Ouais.
La question qu'il faut se poser, est-ce que la Terre a besoin de ça?
La Terre,
le ministre Henault, ministre Henault, en France, a posé un geste radical en démissionnant parce que le peuple n'y
pense Nicolas Hulot,
même
vous voulez dire,
pas, n'y pense même pas. Le peuple n'y pense pas. Alors, il va falloir... Tu sais, Québec solidaire, c'est bien beau, là, ce qu'ils ont dit là, en 12 ans, là, c'est infaisable. Mais ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est réinventer des programmes pour vraiment que l'auto électrique surpasse le véhicule au gaz.
Ouais.
Parce que c'est pas nous, là.
C'est
les enfants qui vont en subir les conséquences.
Alors, vous avez tellement raison. Fait que donc, vous, Jean, ce que je comprends, c'est que c'est l'environnement qui ferait que vous rouleriez éventuellement en électrique.
Oui, mais c'est parce qu'il faut vraiment que le monde, tu sais, on parle de l'Europe, de l'Amérique, tous les continents, ils pensent faire exactement ce que la Chine fait. Mm. La Chine, en ce moment, là, vous imaginez même pas, Mme Maréchal, à quel point ils sont en train de changer le monde, leur monde, là, pour que le gaz, on arrête dans.
Êtes-vous allé dernièrement en Chine, Jean?
Non, j'ai des amis qui sont allés, bon, l'air était respirable.
Ah non, j'avais
Et les Chinois, il y a des révoltes qui se font en Chine à cause seulement de ça.
Ouais.
Alors, il va falloir qu'à un moment donné, on arrête de dire, ben oui, mais moi, c'est trop cher, puis ça. Oui, mais les prix vont descendre et puis l'autonomie va augmenter d'ici, comme on le disait tantôt, dans 3-4 ans.
Alors, mais vous avez
ça va être faisable.
Ouais. Ouais.
Ce que je pense, moi, malheureusement, vous avez raison.
Mais il y a tellement raison sur l'air pollué dans des villes d'Europe. C'est pourquoi vous pensez que les Européens sont proactifs? Ils n'ont plus le choix.
Ils n'ont plus le choix.
Ils ont une augmentation des problèmes respiratoires. Les Chinois, pareil.
Et là, on parlait d'électrique, mais on va interdire les diesels aussi.
Ben, c'est ça le gros problème en Europe.
Ben là, le dieselgate a commencé. Vous avez vu ça, là, le procès? Là.
Mais le diesel, avec les gens c'est Volkswagen, le gros problème d'Europe.
C'est un gros problème parce qu'il y a des pays comme l'Autriche qui avaient jusqu'à 90 % des véhicules qui étaient diesel dans le pays.
Mais il n'était pas.
Mais il était polluant, mais il y avait 70 % des véhicules en Europe qui étaient diesel. Ça laissait juste 30 % pour des moteurs à essence.
Mais moi, je suis ça, ce procès-là, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est une grande fraude.
On s'est tous fait avoir, tous ceux qui sont tombés dans le...
On s'est fait rouler dans la farine solide. Là. On l'a payé plus cher, le véhicule, pour acheter supposément des véhicules qui était moins polluant.
Exact.
Moi, je le prends personnel.
C'est des décisions qui devront venir des gouvernements qui sont en place. Parce que si on demande à l'industrie automobile de s'auto-réguler, on sait très bien que ça ne fonctionnera jamais.
Ouais.
Et si on regarde tout ce qui est sorti de tous les sommets pour la planète depuis 30 ans, il ne sort rien de tout. Tu sais, on finit par avoir un mini-consensus signé du bout des doigts, puis on se félicite du bout des lèvres, mais on n'avance pas. On n'est jamais capable d'atteindre les cibles qu'on se fixe. Alors, il va falloir qu'on ait des lois musclées et que ça se fasse à l'international, pas juste dans un pays. Parce que toutes
Mais tu sais, ici, c'est fragile, parce qu'il y a Québec solidaire qui a poussé son idée là, jusqu'en 2030, tout le monde en électrique. Le PQ avait dit la même chose. Lui, ouais. C'était 2035. Puis là, soudainement, ils ont reculé là-dessus en disant on va plutôt opter pour des cibles audacieuses. Puis quand on regarde CAQ, la CAQ, qu'est-ce qu'ils proposent? Puis tout à l'heure, je vous disais qu'on allait revenir sur l'environnement parce qu'on va parler, entre autres, de l'arsenic qu'il y a dans notre air. En tout cas, dans le coin de Montréal, c'est pas drôle. Tu veux pas habiter là. Puis j'ai les réponses des principales formations politiques aux priorités environnementales d'une coalition de groupes environnementaux et citoyens, dont Équitaire, dont Greenpeace, la Fondation David Suzuki, qui est d'ailleurs à Montréal ces jours-ci. Écoute, tu regardes ce que la CAQ, c'est pas fort en environnement.
Non.
Vraiment pas fort. C'est même assez décevant. T'sais. Je le dis surtout la CAQ parce que si la tendance se maintient, ça ressemble à ça. T'sais. Donc, est-ce que tu veux un parti pas vert? Moi, je trouve que c'est important d'y réfléchir à ça. Donc, on va aller à la pause là-dessus. On revient avec les commentaires de nos auditeurs 514-790-9850. Dites-moi si, d'après vous, ça vous semble réaliste que d'ici, disons, une vingtaine d'années, on n'ait que des véhicules électriques au Québec. À tout de suite. On regardait avec mes invités Benoît Charrette et Antoine Joubert, respectivement éditeur rédacteur en chef de l'annuel de l'auto 2019 avec RPM. Antoine.
BenoîtCharrette.com.
Ah, bien sûr.
C'est sûr, faut pas l'oublier.
Antoine Joubert est chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Et on regardait les réponses donc des principales formations politiques aux 23 priorités environnementales d'une coalition de groupes environnementaux et de groupes citoyens. Puis je peux vous dire que on leur pose des questions aussi simples que on parlait on parle d'essence ce matin, l'essence versus l'électrique, et à la proposition éliminer les subventions aux combustibles fossiles, c'est-à-dire donc aux pétrolières. Le Parti libéral a dit en partie, le PQ et Québec solidaire disent tous les deux la même chose, c'est-à-dire oui, on les éliminerait ces subventions aux pétrolières. La CAQ dit non. C'est ça.
Mais je trouve
je trouve ça dommage. Après, tu peux dire, peut-être que les autres membres disent pas tout à fait la vérité, peut-être que la CAQ est plus franche en disant non, c'est impossible.
Je trouve ça curieux qu'on subventionne des pétrolières.
Ben, tellement!
S'il y a quelqu'un qui a pas besoin de subvention sur la planète, prenez cet argent-là puis subventionnez la recherche sur les véhicules électriques, puis on va avancer.
C'est inadmissible, messieurs, qu'on subventionne avec notre argent. Voilà, une industrie qui a vraiment pas besoin d'argent.
Puis, on est presque dans l'oligarchie, là, quand on regarde ça de proche, là, les décideurs en haut de la pyramide, là, il y en a pas gros, là.
Mais pourquoi on n'arrête pas ça?
C'est
une autre question. Ce sera notre
prochain
débat.
Il y a des intérêts politiques derrière ça. On serait dans un autre sujet, là.
Intérêts politiques? Tu dis, tu veux la une journal de Montréal aujourd'hui? Trois ex-patrons d'Hydro-Québec misent sur l'éolien. Thierry Vandal, ex-patron d'Hydro-Québec, qui a d'ailleurs une rente à vie d'Hydro. Celle-là, je l'ai toujours pas compris. Comment ça se fait qu'il y a une rente à vie d'Hydro? Là. En tout cas, tu sais, il y a du monde qui sont bons à négocier leurs contrats.
Bénéfices marginaux.
Puis deux autres, ils sont dans l'éolien.
Oui.
Voyons. Ouais.
Ils vont probablement vendre cette énergie-là à Hydro-Québec, évidemment.
Ben oui, à sous-contractant.
Ils vont savoir ils vont être sous-contractants de l'Hydro. Ils se sont assurés des contrats. Ils vont investir là-dedans. Toutes les petites centrales, là on change, on dérape.
Ouais. On dérape.
Mais toutes les petites centrales hydroélectriques.
Je suis presque à la veille de vous donner mes recettes de cuisine.
Non, mais tout est lié dans le fond. On parle de l'électricité. Les dernières, c'est clairement dans les états financiers d'Hydro-Québec, les pertes des dernières années, c'est dû à l'éolien.
Ben oui,
fait qu'arrêtons.
Alors,
d'essayer de faire de l'argent avec du vent, ça marche pas.
Et je trouve ça le fun parce que là, tu parles d'Hydro-Québec. Alors, imagine-toi, demain matin, si 75% du parc automobile doit se recharger tous les jours. Moi, je trouve ça comique parce qu'on nous dit, par temps froid l'hiver, réduisez l'utilisation de votre électricité aux heures de pointe. Ne faites pas fonctionner votre sécheuse, votre lave-vaisselle, ces trucs-là. Si tu as 3 500 000 véhicules qui se rechargent dans des garages ou dans des rues, en même temps, aux heures de pointe, quand il fait moins 20, ça va ressembler à quoi?
Mais là, tu amènes du vent dans leur moulin parce qu'ils vont dire on va aller chercher toutes sortes de sources énergétiques, incluant l'éolien.
Là. Non, je comprends, mais
on va la payer cher.
Dans 10 ans, 12 ans, on pourrait avoir un parc qui serait constitué que de voitures neuves électriques.
Ouais.
C'est sûr que les grilles tarifaires vont être différentes, puis on va inciter les gens à changer
puis là,
les périodes.
Là, on taxe l'essence, mais tantôt, on va taxer l'électricité, bien sûr.
On ne s'inquiète pas pour ça.
Non.
Mais tu sais, je pense que personne n'y croit véritablement.
Ben non.
Qu'on aura des véhicules électriques dans 15 ans. Ben, on a l'impression qu'on se prépare pas, là.
Sauf Mme Massé.
Ouais. Ben oui, mais puis sincèrement, moi, j'aime entendre ce genre de proposition, tu sais. Puis on sait que je suis pas forcément Québec solidaire, là, mais, dans ces eaux-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire.
Je répète ce que j'ai dit tantôt, mais ça devra passer par les gouvernements.
Ouais.
Si ça passe pas par eux, il se fera rien.
Et donc, ben, s'il n'y a pas de volonté
la Norvège,
politique...
tous les pays scandinaves, c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir une si grande part de véhicules électriques.
Maxime, bonjour. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Réaliste qu'on roule tous éventuellement en électrique de 15 ans, ça vous paraît...
Je pense que c'est un horizon qui est relativement utopique. Maintenant, moi, personnellement, j'ai fait l'achat en mai dernier d'une Hyundai Ioniq entièrement électrique. Qui a 200 km d'autonomie, je l'aborde. Honnêtement, lorsque je suis arrivé au mois de mai, je devais changer mon véhicule. J'avais une Mazda 3 2004 qui avait fait son temps. Et puis, j'hésitais entre une Subaru Outback, 4 roues motrices, qui est quand même relativement polluante, mais qui avait son utilité en termes de voyage dans le Nord, etc. Ou sinon, de passer entièrement à l'électrique. Puis lorsque j'ai fait l'essai dans un concessionnaire de la Ioniq, ça a été un coup de cœur. Puis depuis ce temps-là, je l'ai acheté juste avant les hausses faramineuses du prix de l'essence, là, lorsque c'est monté à tout près de 1,50. Et puis depuis ce temps-là, j'ai pas fait un plein d'essence. Puis honnêtement, à 200 km par jour, j'en ai amplement. Je la recharge le soir. Je peux choisir mes plages de rechargement. Puis je me suis fait installer une borne à la maison sur le 220. Okay. Donc, en 4 heures, elle est remplie.
L'avantage, c'est les voies réservées sur les autoroutes aussi.
En plus, je travaille au centre-ville. Je travaille au centre-ville dans vos bureaux, puis lorsque je redescends du côté de Laval, ben la 15 le soir, entre 3h et 19h, j'ai une voie qui est entièrement...
La voie de covoiturage est aussi pour les véhicules électriques. Je l'ai emprunté à quelques reprises.
C'est un vrai charme. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de dire que toutes les voitures vont devenir électriques dans 15 ans? Je pense pas, parce qu'il y a aussi une habitude à prendre. Mais aujourd'hui, en termes financiers, j'ai pas de problème à vous le dire. Personnellement, j'ai payé mon véhicule 40 000 $ après le rabais du gouvernement, un véhicule neuf. Grosso modo, j'aurais voulu une Subaru Outback dans les mêmes...
Ça aurait été pas mal dans ces prix-là aussi.
La même chose. Ça aurait été donc, un pour un... je réponds à mon besoin, mais je paye pas un sou d'essence. Puis je calculais une consommation d'essence mensuelle d'à peu près 250 $ que je ne paye pas présentement. Alors actuellement, dans 10 ans, mon véhicule va s'être payé tout seul.
Vous faites 3 000 $ vous faites 3 000 $ de rabais par année là, d'économie.
Mais donc, pour vous, c'est important cette notion, Maxime, c'est important pour vous ce pied de nez que vous faites aux pétroliers?
Ah, tout à fait. Puis c'est surtout le fait d'avoir une certaine indépendance énergétique. Puis non, tu sais, je pense pas nécessairement qu'on s'achète un véhicule électrique parce qu'on est pro-Québec solidaire. C'est pas une question de politique, c'est une question qu'il faut être réaliste, là. On prend sur la planète à chaque jour, on pollue constamment. Alors, si ne serait-ce que dans nos habitudes de déplacement, on peut électrifier nos transports, mais on pollue pas. Puis une chose qui est importante, moi, à l'époque, dans un véhicule à essence, dans le trafic, on est tous là enragés parce qu'on voit l'essence qui diminue. Mais dans un véhicule électrique, tu es assis dans le trafic, tu ne dépenses pas un iota d'électricité, si ce n'est que le peu que tu vas utiliser dans ton air climatisé ou ton chauffage. Ouais.
Ça vous dérange, donc, Maxime? Ça vous dérange un parti qui dit qu'il va maintenir les subventions aux pétrolières?
Au contraire. Ben, en fait, non,
au pétrolière,
c'est ça. Oui, dans la mesure où je pense que tu devrais faire davantage d'investissements pour l'électrification des transports. Et comme vos intervenants le mentionnaient il y a quelques instants, s'il y a bien une industrie qui n'a pas besoin de subvention, c'est bien l'industrie pétrolière. Actuellement, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il retourne de ces subventions-là? Est-ce que, justement, ces pétrolières-là ne sont pas celles qui contribuent beaucoup aux caisses des partis politiques aussi? Donc ça, c'est peut-être qu'il faudrait regarder aussi, là.
J'ajouterais, Maxime, aussi que...
Merci, Maxime.
Il y a l'élément qui est intéressant, c'est le plaisir de conduire une électrique dans le trafic comme vous le faites à tous les jours. Être pris dans le trafic au quotidien, les gens qui n'ont jamais conduit de voiture électrique réalisent rapidement que le couple instantané d'une voiture électrique, le silence de roulement... Monsieur parlait de stress puis du fait de brûler de l'essence, d'entendre le moteur.
Il y a quelque chose de zen.
Il y a quelque chose de zen, d'agréable.
J'essaie depuis hier, vous vous vantez beaucoup d'essayer des voitures, mais des fois, j'en essaye aussi. Et là, on m'a prêté une Volvo XC60T8 avec le autopilot.
Oui.
Je n'avais jamais essayé ça.
Oui.
Tu sais que tu te mets sur autopilot dans le trafic, la voiture, elle bouge tout seul. Elle s'arrête tout seul. Tu ne fais rien. Là.
Oui.
C'est fabuleux.
C'est le but de l'exercice.
C'est fabuleux, là. Tu peux l'essayer sur l'autoroute aussi.
Oui.
Je sais pas, là, encore. Oh, oui, si ça, j'irai là, il ça, paraît que c'est super sécuritaire.
Ça fonctionne.
Je vais tout essayer ça, je vous en parlerai, mais c'est des belles machines. Mais dans ce cas-ci, c'est 30 km d'autonomie. Mais quand tu freines, ça se recharge et tout. Donc, je vous en reparlerai.
Oui.
Là, je l'essaye, là. C'est pour savoir de quoi la fille parle, quand même, pour raconter les gars. Pour raconter les gars, car soit régulièrement sur l'émission, on s'arrête ici, on va à la pause. On a Janine avec nous. Bonjour, Janine. Est-ce que vous avez acheté un véhicule électrique ou vous êtes en train d'en magasiner un?
Bonjour. Non, je suis pas en train d'en acheter un présentement. Pour l'avenir, pour votre question,
oui,
tout ça, plutôt irréaliste. J'aurais plutôt des véhicules hybrides. Écoutez, sur les trottoirs, je vois pas des bornes comme ça à chaque trottoir.
C'est vrai. L'hiver,
ça serait pas terrible, c'est pas joli non plus. Et puis, j'ai vu dans les nouvelles qu'en Espagne, ils ont inventé un nouveau pétrole synthétique fait à base d'algues.
Oui, c'est en fait, on travaille ça depuis une dizaine d'années. C'est qu'on, en fait, parce que du pétrole, à la base, c'est des éléments organiques décomposés qui forment le pétrole. Et on a trouvé une façon accélérée avec une sorte d'algue de la cultiver et de la décomposer.
On fait ça, nous, ici? On a plein d'algues en Gaspésie.
Ouais, oui,
il y a toute une industrie québécoise des algues.
Éventuellement. Je sais que c'est une sorte d'algue là, spécifique dont le nom m'échappe.
Ouais.
Mais on cultive ça à grande échelle et on l'a décompose rapidement et on en fait du pétrole. J'avais lu là-dessus il y a quelques années.
Ouais.
Puis l'Espagne là, commence à le synthétiser là,
ouais,
bon, en petite quantité.
Ouais.
Évidemment,
ça donne un carburant de bonne qualité, ça, c'est une autre question.
Ouais.
Parce que l'éthanol, on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus génial.
Ben, c'est corrosif.
Moteurs,
ouais, c'est corrosif,
c'est
l'éthanol.
Ouais,
puis bon, est-ce que je serais curieux de la quantité d'algues qu'on va avoir de
besoin?
Il y a
ça, c'est l'autre chose. ça peut être marginal. Ça peut être.
Ouais. Mais ça peut fournir un petit pourcentage des besoins. Puis c'est renouvelable. Sauf que ça pollue probablement autant que le pétrole régulier. Ça, il faudrait vérifier.
Mathieu, vous en pensez quoi, vous, de cet horizon de 15 ans que propose Québec solidaire pour que tout le monde, tous les Québécois, roulent en voiture électrique?
J'adore l'idée, mais justement, pour que tout le monde se lance dans l'idée, je pense qu'il manque un peu d'informations. Puis, tu sais, tous les avantages, là, on les voit bien, il y en a énormément. Au niveau primaire, les métaux primaires pour faire ces batteries-là, puis comment est-ce qu'on les recycle? Est-ce que c'est autant écologique qu'on le croit?
Oui. Bonne question pour Antoine Joubert.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce
là, on commence à réaliser que c'est
les batteries, entre autres.
C'est complexe c'est complexe à récupérer. On dit qu'on leur donne une seconde vie en les divisant, en les redistribuant dans différents systèmes.
Il y a plusieurs, on parlait d'éoliennes tantôt, il y a plusieurs éoliennes dont les accumulateurs d'énergie, d'électricité, sont des anciennes batteries de véhicules. GM, entre autres, a une entente aux États-Unis avec une compagnie d'éoliennes où on récupère les batteries des véhicules.
Mais tu sais, l'éolien, là, puis on fera une autre heure là-dessus parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus, mais rapidement, j'avais vu comment on fabrique, tu sais, les éoliennes, on les fabrique, il y a beaucoup de métal, il y a beaucoup de...
Ça
utilise, et puis les poteaux sont en général en béton armé. Ça prend beaucoup d'eau. Ça gaspille énormément d'eau. Fait que c'est drôle, débat.
On calcule le concept intégré de la production à la fin du produit et le recyclage, on est assez souvent surpris.
C'est la même chose pour l'électricité. Chez nous, on a la chance d'être capable de faire de l'électricité grâce à nos cours d'eau, etc. Mais il y a des endroits où ça pollue énormément faire de l'électricité.
Ouais. 60 % d'électricité aux États-Unis qui est encore produite au charbon.
Tellement.
Puis Trump n'est pas prêt d'arrêter ça, là. Il rouvre des mines, lui.
Incroyable. Bon, Alain est avec nous. Bonjour, Alain. Est-ce que ça vous paraît réaliste, éventuellement, que tous les Québécois roulent en électrique?
Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que je suis camionneur. Je me demande bien comment on va faire tantôt pour aller à Destination.
Tesla fait des camions électriques.
Ah, ben c'est ça.
Elle n'a rien ça rouler. Imaginez, Alain, vous roulez avec un Tesla, un camion Tesla. Ça serait le bonheur.
Je vais avoir un chargement de batterie, je serais plus capable de rien mettre.
c'est vrai.
Non, mais en fait, les camions Tesla ont prouvé, on les a prouvés.
C'est quoi, 800 km qu'ils annoncent?
Bon, puis je veux dire, ça va. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que les camionneurs sont limités à un nombre d'heures qu'ils peuvent rouler avant de faire une pause. Je pense que c'est 10 heures, là. Je connais pas les lois exactes, mais camion-là va obliger les camionneurs à s'immobiliser. Ouais. Encore faut-il qu'ils puissent se recharger partout parce que au Québec, c'est c'est relativement facile de se recharger. Mais allez vous promener, quelqu'un qui fait du Montréal-Californie, là,
Les prairies canadiennes.
Ben oui, se recharger là-bas, c'est tout un défi. Là.
Ouais, mais tu sais, tous les tracteurs, tous les équipements de ferme et tout. Il ne
faut pas oublier que l'électrique, c'est ça, l'électrique, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. On approche du moment où on va avoir des piles solides dans les véhicules et on annonce qu'on va tripler l'autonomie qu'on connaît en ce moment. Là, on arrive complètement dans un autre domaine qui pourrait être intéressant pour des gens qui, pour le moment, ne considèrent pas la chose. Alors, il faudra se reparler de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais,
c'est sûr. Plein de questions fort pertinentes des auditeurs. Chaque question, je trouve que c'est une heure de discussion.
J'ai voulu me brancher ce matin avec Manny Sanlif ici à côté en passant.
Puis?
Malheureusement, il y a de la construction, fait que les bornes étaient inaccessibles.
Ah, bravo. tu vois? Hein? Hey, merci Antoine Joubert. Hey, merci beaucoup Benoît Charrette. Merci, on se retrouve après les nouvelles, tout le monde. Restez là.